Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develay-Mazurel, Laure Allary. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dans Les Damnés de la Terre, publié en 1961, le célèbre militant anticolonialiste Frantz Fanon écrivait que décoloniser est un programme de désordre absolu, en ce qu'il propose de changer l'ordre du monde. Alors je ne sais pas si cette semaine on va mettre de l'ordre, ou plutôt du désordre, mais une chose est sûre, c'est que nous allons interroger, déconstruire, décoloniser cette belle affaire qui nous guide chaque semaine jusqu'à vos oreilles, le voyage. Les études postcoloniales ont largement démontré à quel point étudier, analyser le fait colonial permettait de comprendre le temps présent et son propre désordre. Avec au centre la survivance de ce legs hérité de la colonisation dans les imaginaires, les savoirs ou les pratiques. Et le voyage, forcément en tant que fabrique de l'autre et de l'ailleurs, n'échappe pas à cette règle et ce legs, bien au contraire. Des dix découvreurs aux explorateurs en casque colonial assoiffés de conquête, des aventuriers en terre inconnue aux touristes avides d'exotisme, la galerie de portraits fleure bon parfois, souvent, ce temps des colonies où l'Europe se vivait en maître naturel de la planète. Or aujourd'hui, des voix, militantes, mais pas seulement, s'élèvent et invitent à un autre regard, dessinant au moyen d'une pensée vive, critique sur l'état du monde actuel, les contours d'un tourisme, d'un voyage et d'une rencontre avec l'autre, plus éclairée, plus juste, parce qu'un autre voyage est, qui sait, possible.
Le monde est raconté à 90% par la frange occidentale de l'Europe et par l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, il y a beaucoup de grands historiens qui s'intéressent au regard de l'autre, mais c'est à peine ébauché pour l'instant. C'est un énorme sujet et il est urgent dans ce monde globalisé d'entendre la parole des autres et elle est passionnante.
En fait, le décolonial, c'est avoir conscience que tout savoir, toute parole et tout point de vue est situé. L'exotisme, c'est quelque chose qui s'est construit pendant des siècles à partir de récits de voyage, justement aussi, et de regards qu'avaient posés des voyageurs, des découvreurs sur des populations. Une fois qu'on a compris, nous, où est-ce qu'on était situé et les personnes ou les œuvres avec lesquelles on rentrait en relation, où est-ce qu'elles étaient situées, là, on peut avoir un dialogue qui va être, on va dire, dépouillé des structures qui nous enserrent.
Pour moi, le mouvement décolonial, c'est un mouvement, en fait, d'abord d'émancipation. Un mouvement d'émancipation qui s'adresse, en fait, à tout le monde, pas uniquement aux peuples qui ont été colonisés, pas uniquement aux enfants, aux générations issues des familles d'immigration, mais pour moi, ça s'adresse, en fait, à toute la société française, mais même pas que française, parce que cette problématique-là, ce mouvement décolonial, se passe aussi en Europe. Et moi, ce que je trouve intéressant aujourd'hui en France, par rapport au contexte politique qu'il y a actuellement et puis aussi par rapport à la montée des discours des extrêmes, comment le mouvement postcolonial peut apporter des outils, peut apporter des clés. C'est un mouvement en fait qui répond totalement aux urgences sociétales du 21e siècle.
Saskia Cousin-Couton, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes anthropologue, professeur de sociologie, spécialiste du tourisme, mais aussi des questions de restitution des biens culturels à l'Université Paris-Nanterre. Et c'est avec vous que l'on va se pencher dans cette émission sur cette question « Comment et pourquoi décoloniser le voyage ?» Vaste programme. Là, on vient d'entendre un extrait choral du documentaire d'Arnaud Contreras, « Décoloniser le récit du monde », qui est tiré d'une archivina France Culture datant de 2019, avec dans l'ordre la journaliste Marie-Hélène Fraissé, la chercheuse Alice Le Filleul et enfin l'artiste Pascal Obolo. Alors elles nous ont parlé plutôt de littérature, de voyage, de ces nombreux récits qu'ont produits pendant des siècles les explorateurs occidentaux, les géographes, les écrivains de retour de voyage, avant que le public, si je puis dire, ne s'en empare aujourd'hui au moyen d'une GoPro ou d'une caméra sur leur téléphone pour raconter leur voyage et raconter l'ailleurs. Et je me demandais, Saskia Cousin-Couton, vous qui parlez dans votre livre « Sociologie du tourisme » paru aux éditions La Découverte, vous parlez d'un fait social total à propos du tourisme. On se dit que finalement, forcément, il n'échappe pas, comme les autres faits sociaux, aux stigmates coloniaux. Parce qu'on entend parler de décoloniser l'école, décoloniser les savoirs, les arts, les musées. Donc, pourquoi pas le voyage, finalement ?
Oui, en fait, le voyage tel qu'il a été perçu, présenté, représenté à travers des images, une imagerie, et donc suscite des imaginaires, il est Il y a une forme de voyage, celle qui est mise en avant, elle est construite dans une histoire particulière qui est liée à l'histoire occidentale et aux conquêtes coloniales notamment. Donc ça, cette histoire du tourisme est très liée à cette histoire-là. Mais évidemment, il y a toute une autre histoire du voyage qui reste à écrire. Mais le premier grand et le plus grand voyageur, c'est Mbatuta au XIVe siècle. Et il y en a évidemment d'autres, puisque l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire en fait de
des
gens
voyages.
Qui sont passés, qui ont... traverser le monde et donc l'ensemble de l'humanité voyage depuis toujours. Donc il faut resituer dans une histoire qui est très mal connue, qui est une histoire mondiale qui devrait être faite, une histoire à part égale du voyage.
Et comment la chercheuse que vous êtes accueille justement cette pensée critique décoloniale à propos du tourisme et du voyage ?
Avec un grand soulagement, parce que... En fait, quand on a fait, par exemple, sociologie du tourisme, on avait assez peu d'éléments, puisque un repère, c'est une synthèse des travaux déjà écrits, et on avait assez peu d'éléments, en fait, sur cette histoire-là, comment on écrit une façon alternative, et puis les enquêtes que j'ai pu mener, ou quand j'ai vécu au Bénin ou au Sénégal, montrent qu'il y a de toute façon d'autres manières d'appréhender le voyage, et... Il reste à écrire, j'espère que d'autres pourront l'écrire, cette histoire différente en fait du voyage. Il y a des historiens qui ont travaillé là-dessus, notamment le rôle de la colonisation, le rôle du tourisme, de l'industrie touristique dans la conquête coloniale. Mais il y a aussi d'autres manières d'écrire cette histoire. Il y a des écrivains japonais ou chinois qui ont travaillé par exemple sur ces questions.
Alors à présent, je vous propose d'écouter Sourour Nadjaï, qui est française. Elle est installée au Québec et elle a monté il y a 5 ans environ sur Instagram un compte qui s'appelle Décolonial Voyage. Et nous, à Si Loin Si Proche, ça fait pas mal de temps qu'on la suit épinglant les clichés médiatiques sur l'Afrique ou les Outre-mer. Elle épingle aussi les postures de certains influenceurs voyage qui ont du poids aussi dans le choix des destinations pour ceux qui les suivent. J'ai donc appelé Sourour Nadjaï. Elle était au Québec. Et je lui ai d'abord demandé pourquoi elle avait monté ce compte Décolonial Voyage.
Alors déjà moi à la base je voyage beaucoup, j'adore voyager, j'ai voyagé assez tôt dans ma vie donc et puis en voyageant beaucoup ben je consommais du contenu voyage sur internet principalement donc il y a quelques années c'était surtout des articles de blog et puis aussi les réseaux sociaux donc moi j'ai toujours été assez consommatrice d'Instagram en fait. Puis à force de voir que c'était assez monochrome, je pourrais dire, dans la manière dont les voyages sont racontés, la vision du voyage, cette espèce de truc de beaucoup centrer le voyage sur nous-mêmes. Et c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de son de cloche différent, il n'y a pas de vision différente dans le voyage. Enfin, et je me suis dit, je vais créer un truc pour essayer d'apporter une voix un peu différente, quoi. C'est aussi peut-être aussi dû à mon histoire. Voilà, je suis issue d'immigration. J'ai grandi en France. J'ai aussi, dans le cadre de mes études, j'ai pas mal étudié aussi les questions coloniales, etc. Donc, j'ai quand même pris conscience assez tôt que c'était quand même assez... Il y avait beaucoup de restes du colonialisme, en fait, dans nos pratiques de voyage actuelles et puis depuis plusieurs années. Donc, décoloniser le voyage, avant tout, pour moi, ça part d'un processus, en fait, de décentrement, en fait, avant toute chose. C'est-à-dire d'essayer, en fait, de changer notre perspective. Remettre en question un peu des pratiques, des mentalités occidentales en fait, qui sont celles qui dominent le voyage aujourd'hui. Et puis ça part avant toute chose d'une prise de conscience, donc c'est-à-dire avoir conscience que en tant que voyageur occidental, on est dans une situation de privilège mais de pouvoir aussi. On a quand même des facilités de voyage qui sont assez incroyables. Enfin, on a cette chance. C'est un processus de compréhension, en fait, pour moi, de se décentrer et puis de comprendre qu'il n'y a pas que notre vision du monde à nous qui est importante et puis qui est une compréhension, en fait, de essayer de voyager en toute humilité, en fait, et en essayant d'avoir une curiosité qui est saine, contrairement à des curiosités qui sont que j'appelle malsaines, parce que parfois il y a des choses qui sont assez détestables quand on essaye d'aller voir ce qui se passe dans certains ghettos, etc. Enfin, j'en ai déjà parlé sur mon compte. Donc voilà, c'était vraiment une volonté de déconstruire, de défaire un peu toutes ces pratiques, cet imaginaire, tous ces visuels qu'on a, que ce soit aussi bien dans le marketing ou autre, et puis ça a donné Décolonial Voyage.
Cette année, je trouve que c'est triste. Il n'y a pas d'animation, il n'y a personne, il n'y a pas de Français, il n'y a pas de touristes, il n'y a que des locaux.
Moi, souvent, j'interpelle des voyageurs, notamment des influenceurs qui ont une très grosse communauté. Et bien souvent, les réactions que j'ai en retour, c'est des réactions très négatives, en fait. Les personnes ne comprennent pas pourquoi je les interpelle sur tel ou tel sujet. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est un problème avec le continent africain, c'est qu'on n'a pas cette vision de la nature telle qu'on l'a, par exemple, ici au Canada. Je parle du Canada parce que je vis ici. Mais en fait, ici, on a des grands espaces aussi au Canada, mais la nature, elle n'est pas du tout traitée de la même manière qu'en Afrique. C'est-à-dire qu'on reste toujours sur cette idée du continent sauvage, du continent où on part à l'aventure. Enfin, il y a rarement l'aspect culturel, en fait, je trouve, quand on voyage dans des pays africains. C'est souvent les grands espaces, on voyage en jeep, on fait le tour de l'Afrique, on part du nord, on va vers le sud. Enfin, il y a beaucoup de voyageurs qui font ça. J'avais posté aussi une vidéo, pareil, d'un influenceur qui partait sur je ne sais plus trop quel fleuve, dans un parc national, il me semble que c'était au Cameroun, et il était dans sa barque comme ça, puis il avait sa machette, et puis il donnait des coups de machette en pleine nature pour se frayer un chemin. Donc on a vraiment cette image de l'aventurier qui, du 18e siècle, qui va rencontrer des espèces de tribu, enfin, je sais pas, c'est super archaïque en fait la vision qu'on a encore aujourd'hui, et c'est super étonnant. Et je m'en étonne toujours parce qu'on est quand même en 2024 et puis on est toujours en fait collé, stické à ce truc qui est qui vient du passé quoi, et qui est complètement néocolonial, complètement. Parce que quand on voit en comparaison des contenus voyage qui sont produits par des voyageurs africains. Ou qui sont issus de l'immigration africaine. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui ont des comptes Instagram et qui voyagent en Afrique. Et l'image est complètement différente. On voit une Afrique totalement différente. On voit une Afrique qui est moderne. Et on voit une Afrique culturelle aussi, surtout. Avec, on va à la rencontre d'artisans, on va à la rencontre d'intellectuels. C'est là où on a quand même deux visions qui sont complètement à l'opposé. Et c'est surtout aussi la manière dont on traite les populations. C'est ça qui est aussi important. C'est que les pratiques que j'estime être néocoloniales, et ben elles sont aussi dans le rapport qu'on a aux populations. Donc ça, c'est le rapport à l'autre aussi, pour moi, il joue beaucoup dans, voilà, dans l'interprétation qu'on en a, quoi.
Saskia Cousin-Couton, sourd en Adjaï, vient de dire beaucoup de choses.
Absolument.
Et notamment, elle a dit ce mot important quand même, sur lequel je voudrais qu'on revienne, le mot « privilège ». Et je voulais vous poser cette question, est-ce que voyager aujourd'hui, c'est bel et bien l'exercice d'un privilège pour ceux qui peuvent prendre l'avion, traverser les mers?
Alors oui, déjà, il y a le privilège économique, socio-économique, mais il y a aussi et surtout le privilège des visas.
Absolument.
La force du visa, quel que soit le niveau de revenu, si vous n'avez pas le bon passeport, enfin c'est la force du passeport, eh bien vous n'aurez pas le visa. Donc de toute façon, l'accès au voyage demande des ressources économiques que tout le monde n'a pas, mais se surajoute entre le nord global et le sud global la question du passeport. Donc c'est un immense privilège de pouvoir voyager pour son plaisir. Il faut avoir les moyens et puis ensuite il faut avoir le passeport.
Oui, sachant que la France, j'ai vu ça en 2024, arrive en tête avec d'autres pays, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Japon et Singapour. C'est un pays qui a un des passeports les plus puissants, comme on dit, puisqu'on peut aller dans des destinations sans visa dans 194 pays.
Oui, absolument. Alors, je voudrais juste dire quand même que ça, c'est ce qui est visible, c'est-à-dire entre le nord et le sud, les gens qui viennent du nord au sud et du sud au nord. Mais par exemple, l'industrie touristique, c'est ce qu'elle voit, ce qu'elle compte, hein, notamment le transport aérien. Mais par exemple, en Afrique, les gens voyagent énormément entre pays, par exemple,
bien
de
sûr.
La CDAO, mais ils ne sont pas visibles par les statistiques. Donc, ça n'empêche pas les gens de voyager, d'avoir différentes activités de mobilité, mais simplement, toute une partie du monde leur est interdite.
Et puis en plus, je crois savoir que les chiffres sont un peu biaisés, puisqu'on compte à chaque fois l'arrivée d'un touriste international, mais quand on prend, par exemple, on fait des escales, à chaque fois, c'est compté comme une arrivée à un touriste. Donc, quand on dit, par exemple, en 2023, qu'il y a eu un boom touristique post-pandémie, 1,3 milliard de touristes, finalement, c'est beaucoup moins. Donc, ça montre qu'en fait, il n'y a pas autant de gens que ça qui voyagent en avion.
Absolument, c'est 1,3 milliard d'arrivées internationales. Donc, si vous prenez 10 fois l'avion dans l'année, vous allez être compté 10 fois. Donc, on estime à plutôt 200 millions de personnes qui prennent l'avion pour leur loisir.
Ce qui est très peu, finalement,
à l'échelle. Donc, en fait, à l'échelle de 8 milliards d'habitants, c'est en fait extrêmement peu. Donc, la question des mobilités et du voyage ne peut absolument pas se réduire à la question du transport aérien. Et ceux qui prennent l'avion représentent une toute petite minorité.
Et alors, en parlant de privilèges, j'aimerais bien qu'on fasse un petit saut dans le temps, qu'on retourne en arrière, puisque d'un point de vue historique, on peut se dire aussi qu'aux origines du tourisme, au XVIIe siècle, on était déjà dans une histoire de privilèges, puisque ça vient d'une aristocratie européenne qui, elle seule, avait le droit de voyager pour ses loisirs. C'est comme ça qu'est né le tourisme.
Absolument, c'est une histoire d'aristocrate qui a inventé le grand, ce qu'on appelle le grand tour. Encore une fois, les gens voyageaient depuis très longtemps, mais l'idée que ça soit organisé, donc en fait, c'était, on va dire, des jeunes hommes hein, de bonne famille qui allaient découvrir l'Europe et en particulier les beautés gréco-romaines, qui partaient avec leurs professeurs et qui allaient découvrir ce qui représentait leur sud à l'époque et leur histoire qui était la Grèce et la Rome antique. Donc c'était un grand privilège. C'est aussi eux qui ont finalement organisé les stations. Et puis ensuite, c'est devenu un enjeu, on va dire, économique avec la construction d'agences de voyage. Puis après, un enjeu dans l'histoire coloniale, puisque dès qu'il y a des conquêtes coloniales, il y a l'idée que l'ouverture de bureaux touristiques, la création de guides touristiques est un moyen, en fait, de faire partir des colons et puis de les faire rester. Donc les premiers guides, les premières organisations suivent immédiatement les conquêtes coloniales.
Parce que le lien entre tourisme et colonisation, vous l'avez dit, est loin d'être anecdotique. Je vous propose d'écouter tout de suite à ce sujet une archivina de la radio-télévision française de 1952.
L'Algérie offre aux touristes, au printemps, en automne et en hiver, un climat d'une douceur incomparable, lequel, joint au pittoresque des cités et à l'attrait de deux civilisations juxtaposées, font de ce pays un pôle d'attraction pour les curieux. La presse algérienne préconise donc une intensification du tourisme international en Algérie.
Quelles sont les régions, quels sont les sites, quels sont les contrées que vous visitez dans cette région et que les touristes campeurs venus de la métropole pourront visiter ici?
Il y a beaucoup de choses à visiter. Il y a d'abord Bugeaud, Herbillon.
C'est-à-dire d'une part Bugeaud, la montagne, et d'autre part
Herbillon, la mer.
Et vous, monsieur?
Ce que j'ai le plus admiré dans mes voyages touristiques en Afrique du Nord, c'est la côte de Bougie à Djéli.
La fameuse corniche
où se trouve la grotte merveilleuse. Et de la vie des touristes de la Côte d'Azur, on peut la comparer, sans orgueil local, à certains coins de notre Côte d'Azur.
Et alors le climat, proprement dit, il fait très chaud le jour, mais la nuit, paraît-il, il fait très froid.
C'est exact dans le sud, ce n'est pas exact sur le littoral. Le climat du littoral est un climat assez humide, qui par conséquent retient la température de la journée, et les nuits sont assez douces, quelquefois même assez chaudes.
Est-ce qu'il faut porter le casque colonial? C'est une question qui peut peut-être vous paraître absurde, mais je pense à ces garçons venus du nord de la France, qui vivent sous des...
Qui s'affublent d'un casque colonial.
Oui, doivent-ils le faire colonial ou pas? Ont-ils raison ou non?
Ils ont raison s'ils doivent s'enfoncer toujours dans le sud. Ici en Afrique du Nord, sur le littoral toujours, ce n'est pas absolument indispensable, mais c'est un appoint qui est très utile, certainement.
Saskia Cousin-Couton, le touriste en casque colonial, c'est une réalité historique, que ce soit en Algérie, en Indochine ou ailleurs. Là, on se situe dans les années 50, mais ce qu'il faut dire, c'est que ce tourisme se met en place très tôt, après les conquêtes des empires coloniaux, français notamment. En Algérie, par exemple, on l'a entendu, là on est dans les années 50, mais finalement, dès 1860-70, on a toutes ces élites friandes de soleil, des hiverneurs, comme on les appelait, qui vont en Algérie pour prendre le soleil et en hiver. Et l'historienne Colette Zitniki, qui a longuement travaillé sur le tourisme colonial en Algérie, écrivait qu'il s'agissait d'en faire à l'époque, faire de l'Algérie la Californie africaine. Donc on voit bien quand même qu'il y avait un projet de mise en tourisme de ces colonies, à la fois pour accueillir les touristes étrangers, internationaux. Donc on peut se dire que finalement c'est presque le début de l'industrie touristique internationale.
Absolument. On date la première croisière organisée au bombardement d'Alger, organisée depuis Marseille, pour aller regarder le bombardement d'Alger. Donc là, on est en 1830. Le premier guide qui concerne les colonies, le premier guide francophone, puisqu'il y en a d'autres en anglais, c'est le guide du voyage en Algérie, sous-titré, je crois, « Itinéraire du savant, de l'artiste, de l'homme du monde et du colon ». Et là, on est en 1846, c'est-à-dire un siècle avant l'archive que nous venons d'écouter. Donc il y a vraiment un enjeu, en fait, c'est la conquête, et puis après, c'est les enjeux de pacification. Et donc, ça a été étudié aussi au Maroc, le Lyoté, qui veut mettre en tourisme ce qu'il appelle le Maroc inutile. Donc, c'est une manière de pacification des confins. On réduit avec la guerre et puis ensuite, on installe. Et donc, c'est pour séduire, en fait. Et donc, il va y avoir le rôle des orientalistes, notamment la peinture, l'écriture, qui vont donner des belles images, qui vont convaincre, on va dire, les Français ou les Anglais d'aller s'installer. Et puis, une fois que le colon est sur place, il faut lui donner des vacances. Et donc, on crée des petites stations, notamment sur les hauteurs, donc avec des bureaux de tourisme en Indochine. Chine, ça ouvre je crois en 1910. Et donc c'est déjà aussi dans une concurrence entre par exemple le Royaume-Uni et la France, les différentes puissances coloniales, de mettre à disposition cette offre touristique qui évidemment ça, s'adresse uniquement aux Occidentaux et pas du tout aux locaux qui sont réduits à être soit des figures de tableau dans le meilleur des cas, soit qui vont être perçus comme c'est une grande altérité. C'est aussi là où on construit ce discours de l'altérité, puisque donc nous avons les colons, les explorateurs, les colons, les missionnaires, les savants, les peintres, les ethnologues et puis les touristes qui sont déjà là, par exemple. Marcel Griaul, je crois, en 1931, pendant l'expédition Dakar-Djibouti, qui est financée par le ministère des colonies, dit qu'il faut recueillir les savoirs, les coutumes, parce que, qu'ils sont menacés par le tourisme. Et il écrit en 1931.
Et en même temps, on peut y voir aussi, à travers ce tourisme, une forme d'appropriation du territoire. Des paysages, des monuments de son patrimoine, voire de son histoire, on le fait sien. D'une certaine façon.
Absolument. C'est une forme de colonisation des imaginaires. C'est un combat culturel. C'est-à-dire, une fois que les armes sont posées, l'idée, c'est de construire en fait cet ailleurs comme justement un ailleurs d'appropriation. C'est un paysage. Et comme ça a été dit également plus tôt, où finalement, les humains sont au mieux des figures exotiques, mais souvent doivent disparaître.
Et puis on pense aussi bien sûr à cette époque coloniale, aux expositions coloniales qui participaient aussi à cette propagande de mise en tourisme ou de mise en scène de l'autre. Dans une approche coloniale bien sûr, ça portait son nom, c'était des expositions qui allaient dans ce sens, avec évidemment aussi beaucoup de préjugés racistes.
Et l'objectif est bien touristique, c'est-à-dire il s'agit aussi de faire partir, donc les expositions coloniales ont pour objectif de montrer en fait l'apport économique des colonies et de mettre en valeur, comme aujourd'hui vous avez des salon du tourisme, de mettre en valeur les colonies, les mettre en scène, montrer l'artisanat, donner envie d'aller sur place.
Sauf qu'à l'époque, on le fait aussi à travers des zoos humains, par exemple.
Absolument.
Mais ça dit quand même que finalement, dans cette intrication entre la colonisation et le voyage, il y a beaucoup à dire. On en parle depuis peu, finalement, de ça.
Oui, c'est très compliqué parce que... pour des questions d'abord disciplinaires, de la façon dont sont construits l'étude du tourisme, qui est liée à des disciplines qui ne se sont pas forcément posées la question dans ces termes-là. Et puis aussi, il faut dire que travailler sur le tourisme était assez mal vu en sciences sociales. Et donc, il n'y a pas forcément eu de travaux sur ces questions-là. Ça a été travaillé, hein, le premier article en anthropologie sur ces questions-là, il est paru en 65 au Mexique. Donc, il y a des travaux. Notamment en espagnol, qui portent sur ces questions-là, mais en France, c'est très tardif.
Allez, on va filer en douce sur une île, peut-être polynésienne ou caribéenne, avec une chanson qui, à sa manière, perpétue bien le cliché d'évasion sous les cocotiers. Tout de suite, c'est Henri Salvador et Dans mon île sur RFI.
Dans mon île, ah, comme on est bien. Dans mon île, on ne fait jamais rien. On se dort au soleil qui nous caresse. Et l'on paraisse sans songer à demain. Dans mon île, ah, comme il fait doux, bien tranquille, près de ma doudou. Sous les grands cocotiers qui se balancent en silence, nous rêvons de nous. Dans mon île, un parfum. Se faufile dès la fin du jour. Et la la cour me tendant ses bras de cils.
À si loin, si proche, en compagnie de Saskia Cousin-Couton, anthropologue française, spécialiste du tourisme, mais aussi de la restitution des biens culturels, on continue cette semaine de déconstruire et décoloniser le voyage. En France, aujourd'hui, certains ont tendance à associer cette réflexion décoloniale à un courant strictement militant, partisan, woke, même le mot est lâché, qui viendrait saboter le récit national. D'autres, au contraire, voient dans cette décolonisation des esprits, des imaginaires et des pratiques un vrai levier de connaissance et de complexité fertile. Et pour ce qui est du voyage, on en a parlé un peu, mais l'homo touristicus semble parfois, quand il voyage, oublier où il met les pieds. Pire que ça n'est pas chez lui. Réflexe colonial ou pas, biais inconscient ou pas, il s'agirait presque des fois de civiliser le touriste. Retour à l'envoyeur est extrait d'un reportage dans la commune de Camopi, située à l'extrême sud de la Guyane française. C'est la terre des communautés amérindiennes Teco et Wayampi qui récemment ont vu arriver l'avion et ses touristes à l'intérieur. On écoute Marion Jacquelin, chargée de développement pour le parc amazonien de Guyane, qui a dû éditer un guide, une brochure destinée aux touristes.
C'est très exotique, la manière de vivre ici, pour certains. Rien que pour le tourisme, c'est un territoire qui a pu en souffrir. Nous, on a juste pour l'instant, au moins...
Souffrir de quoi? De ne pas avoir assez de tourisme ou de...
Ou peut-être d'avoir été confronté à des gens qui venaient et qui n'avaient pas la bonne approche pour eux. Donc, ils sont assez vigilants avec tout ça. Ils n'aiment pas trop les photos sans autorisation, ce qui s'entend tout à fait. Mais ce qu'il faut rappeler pour nous sur un guide, pour être sûr que les choses soient bien faites... On rappelle aux opérateurs touristiques, quand ils ont des groupes qui déambulent comme ça dans le bourg, c'est pas parce que les carbets sont ouverts et les gens dans leur hamac ou en train de cuisiner qu'en fait on les prend comme ça, c'est pas des animaux de foire. On peut pas laisser les choses se faire n'importe comment parce que après ça pose des problèmes qui mettent du temps à trouver leur pansement.
Surtout qu'en fait, on peut alerter et éduquer, justement, les voyageurs. Comme de la même manière, on ne vient pas dans la forêt amazonienne prélever des orchidées sauvages, eh ben, on ne vient pas non plus prélever l'image de quelqu'un qui y vit.
C'est ça, on ne s'invite pas dans un cacheri, même si on aurait très envie de savoir quel goût ça a. C'est tout un rituel. Ça,
c'est la boisson traditionnelle qu'ils partagent.
C'est ça, de ma base de manioc. Enfin, il y a plein de petites règles qu'on ne peut pas forcément avoir comme ça aussi de manière instinctive. Hein. Et puis, on vient sur un territoire, on vient en vacances, on veut ramener des souvenirs. Mais en fait, on a affaire à des gens, à des habitants.
C'est un lieu de vie, en
fait.
C'est ça.
Et puis, c'est chez eux. On vient chez eux. Donc, ça se respecte, en fait. Il y a des habitants, il y a une réalité. On en tient compte et on ne fait pas ce qu'on veut comme on veut parce qu'on vient s'amuser. Voilà.
Saskia Cousin-Couton, cette impensée de l'autre, est-ce que vous diriez que c'est constitutif du voyageur touriste qui dit vouloir rencontrer l'autre mais qui finalement ne fait que partir à la rencontre de l'idée qu'il s'en fait, de ce qu'il en attend?
Oui, c'est tout le paradoxe du tourisme, à distinguer des vacances. Hein. Le vacances, c'est un retour vers soi, c'est pas si dans le sens. Le tourisme, c'est un imaginaire de l'altérité. En fait, on construit, enfin, on consomme, en fait, mise en marché d'un discours sur l'altérité. Et ce paradoxe, c'est qu'on vient pour consommer de l'altérité et qu'en même temps, eh bien, finalement, cette interaction entre humains
a du mal à se faire,
puisque finalement, comme on a construit des imaginaires où cette altérité, où ces personnes sont vues comme un paysage, finalement, on en revient à une logique qui est celle du zoo humain, c'est-à-dire vous pouvez prendre en photo des gens qui sont en train de déjeuner. Imaginez l'inverse, vous êtes dans votre jardin en train de jouer avec vos enfants et puis vous avez des gens qui passent et qui commencent à vous photographier. Tout de suite, vous comprenez que là, il y a un enjeu et c'est pas celui de l'altérité. Le discours de l'altérité, à mon avis, participe aussi à cette altérisation qui fait que on va regarder les personnes comme des objets en fait de photographie, de désir, de consommation. Voilà.
Alors aussi, à propos du tourisme, on a souvent argumenté qu'il profitait aux populations locales, qu'il était un facteur de développement. Or aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, on voit que la réalité du tourisme prouve que c'est plutôt un mirage, que c'est même l'inverse. J'ai vu ce chiffre, 80% de ce que dépense un touriste du Nord dans un pays du Sud revient aux industries du Nord. Donc est-ce que vous diriez que finalement décoloniser le voyage, c'est aussi permettre une plus grande souveraineté économique des pays visités au Sud notamment ?
Absolument. Et 80%, c'est souvent sous-estimé en fait. C'est-à-dire que c'est l'avion, l'hôtel qui appartient à des grands groupes internationaux, c'est les produits consommés, etc. C'est pour ça qu'un certain nombre de pays dans le Sud global repensent leur politique touristique et voient la construction d'hôtels, des lignes aériennes propres des pays comme un enjeu de souveraineté économique mais aussi politique. C'est-à-dire se réapproprier les bénéfices du tourisme mais aussi se réapproprier le récit que l'on veut avoir sur soi. C'est le cas notamment du Bénin où je travaille. C'est le cas dans un genre totalement différent du Sénégal.
Alors on le voit depuis le début de cette émission, la colonisation a laissé des traces dans les esprits, dans les récits, vous venez d'en parler, mais aussi finalement dans le visage des villes, dans la statuaire, dans le nom des rues, que ce soit en Europe ou en Afrique d'ailleurs. Décoloniser l'espace public, c'est un des chantiers auxquels s'attellent aujourd'hui bon nombre d'institutions culturelles à travers le monde. Et ceux qui nous suivent à si proche, vous savez qu'on suit pas mal de ces initiatives, tantôt citoyennes, tantôt institutionnelles, pour assumer et aussi dire ce passé colonial qui se lit dans la ville, mais encore faut-il le connaître et qu'on vous en parle. Extrait de notre reportage au Palais de la Porte Dorée à Paris, avec Constance Rivière, sa directrice, devant sa façade « On ne peut plus colonial ».
On est au Palais de la Porte Dorée dans l'est de Paris, en face du bois de Vincennes, dans un lieu qui a été construit en 1931 pour l'exposition coloniale internationale. Et cette exposition coloniale, elle est pensée comme un moment de propagande de l'aventure coloniale française, à un moment d'ailleurs où les Français doutent un peu de sa légitimité. Et le Palais de la Porte Dorée, c'est le lieu qui est appelé à rester comme un monument qui doit, dans toutes ses dimensions, magnifier la colonisation et montrer à la fois sur ces bas-reliefs assez impressionnants à l'extérieur les apports des colonies à la France. Et donc ce qui est représenté, c'est des humains, des denrées, des voyages, des ressources, et les colonies sont représentées de manière générale comme une force de travail et un apport en approvisionnement pour la France. Et donc, il faut à la fois regarder avec la perspective critique qui doit être la nôtre aujourd'hui et en même temps comprendre que ça a été un moment de notre histoire et qu'on ne peut pas s'en départir du jour au lendemain. La seule chose, c'est de réussir à penser cette histoire-là de la manière la plus éclairée, la plus ouverte et la plus... disons la plus pertinente possible. Essayer de fuir cette histoire, ça serait la meilleure manière de ne pas chercher à combattre nos préjugés dans le présent.
Saskia Cousin-Couton, décoloniser le voyage, c'est aussi faire de la place à d'autres récits que les récits dominants, longtemps coloniaux, et c'est aussi, on l'a entendu, dire ce qu'a été ce passé.
Oui, c'est produire un récit, mais aussi qui produit ce récit et de quel point de vue. Et je pense que ce point de vue-là, on va dire que la France a des progrès à faire par rapport à ce qui peut se passer dans d'autres pays européens, notamment pour les musées, le rôle des diasporas notamment, sur la façon dont elles peuvent prendre la parole, non pas être associées comme public, qu'on va aller chercher, public éloigné, public du champ social, mais comme personnes qui vont produire le discours, qui vont se réapproprier le récit, qui vont aussi construire le récit de leur point de vue. Et donc, c'est comment est-ce que, par exemple, des balades peuvent avoir lieu dans Paris pour raconter aussi comment Paris, en fait, s'est construit avec ces diasporas et comment est-ce qu'il y a d'autres regards qui existent et puis comment on intègre la pluralité des récits sur cette histoire coloniale qui est aussi également très présente en métropole.
Il y a des visites quand même décoloniales autour des minorités jusque-là invisibles ou invisibilisées, on dit, autour des femmes, autour de l'histoire noire. Donc on sent qu'il y a quand même cette volonté de raconter la ville et l'histoire autrement, d'aller au-delà de la carte postale.
Absolument. Et l'enjeu, c'est... on va dire c'est une guerre dans les imaginaires, c'est-à-dire de sortir en fait du récit qui est toujours produit par les mêmes personnes. Elles peuvent être de tout à fait bonne volonté, mais ce n'est pas la question. L'enjeu, c'est comment est-ce que les personnes concernées se réapproprient et ont la liberté de produire et de proposer d'autres images, d'autres référents. Par exemple, le musée du Quai Branly, qui est présenté comme un musée des autres, un musée de l'altérité, eh bien, on est dans une société multiculturelle, et donc pour plein de gens qui viennent au Quai Branly, ça n'est pas un musée des autres, c'est un musée où il y a aussi leurs choses. Et donc, la façon dont on pense le musée, en fait, on le pense que d'une certaine manière. Si on fait rentrer les diasporas et qu'on leur ouvre les portes et d'autres récits, on change ce discours sur l'altérité, sachant que ce musée-là, comme d'autres, est aussi un élément fondamental dans la construction de l'offre touristique.
Absolument, et partout ailleurs, à Paris, mais ailleurs en Europe et dans le monde, on parle aussi beaucoup de décolonisation des collections au sujet des musées. C'est le dernier volet de notre programme de décolonisation du voyage, les musées. Mais avant cela, on va écouter Balogi sur RFI.
Elle était pépère avec son gars malgré galère. Elle pouvait manquer à manger mais jamais sa chaleur. Mais la petite en question malgré ça elle me voulait. OG que je suis, j'ai pas chipoté, je l'ai volé. Je l'ai promis la vie en rose sans épis. Matin, midi, soir devant elle, je m'incline. Baby, please pick up your phone, let's make it clear. Mon seul souci que tu fasses partie de ma famille. I don't wanna hurt them. Quart d'heure comme le dernier carton. Zéro défaite au compteur, j'ai le tempérament. Il te faut un amant premium pour sortir de cette rom-com. Oui, de ventouse, nos bouches qui s'épousent. Tu m'agrippes aux hanches, invisible ceinture. Bassa qui se penche pour marquer la mesure. Imprimé au corps, la marche à suivre. Sur un dominateur, c'est une coulée de givre. Hey. I don't wanna hurt them. The beautiful, yeah. The beautiful, yeah. I don't wanna hurt them. We got a phone, yeah. Now, Kokate, mi amor. Namon, namon, susu. La komekate, poko luka maman. Soto changa na lisumu. Kabolingo, noisa, de color. Tapi, yalokumu. Rando le voyant, moza la marraine. Rana zala, yayokumu. Que retenir de cet homme comme t'aimes appuyer sur un hématome. Relation toxique, étrangement tu fais du bien. Son caractère volcanique sur ton humeur déteint. Dos à dos comme Kappa, l'infirmière de Kuja. Vie couchée, couchée, morale inversée. Jeu de soumission qui résiste aux valeurs féministes. T'aimes la trappe bien vulgaire, même si tu prends le contraire. Quelque chose de maso dans ce mano à mano. Avec un minotaur, avec un minotaur.
That looks so good, that looks fire. Fire! That looks so good, that looks fire. Fire!
Beautiful, ma. Beautiful, yeah. Yeah.
Si loin, si proche, tous les voyages sont sur RFI.
Le musée a réussi à se présenter comme un endroit totalement neutre, de beauté, de méditation, et ce qui est vrai, mais en même temps, un endroit vraiment comme coupé de ce qui l'entoure, totalement. Or, il absorbe, je veux dire, il fait partie du monde social. Et les musées européens sont les musées qu'ils sont, c'est-à-dire avec le prestige qu'ils ont, les collections magnifiques qu'ils peuvent avoir, parce que plus d'objets ont été pillés, volés ou acquis totalement malhonnêtement. Donc on est quand même dans un modèle d'une institution qui repose sur du vol et de dire, mais non, c'est à nous. Mais en quoi les frises du Parthénon sont aux Anglais? En quoi les trésors africains sont aux Européens? Que ce soit le musée de Tervuren, le Branly ou le British Museum ou le Humboldt Forum. Enfin, toutes ces questions, oui, se posent, je veux dire. Et le fait que le prestige de ces musées s'est construit là-dessus. Il y a 70 000 objets africains au musée de Quai Branly. 70 000. Je veux dire, si on les retire, c'est quoi le musée de Quai Branly? Donc on voit que l'invention de ce musée repose. Il y aurait sans doute des objets qui resteraient, hein, j'en suis sûre. Et ce qui est aussi très difficile maintenant pour, par exemple, un musée ou des musées qui voudraient se faire sur le continent africain asiatique, quelle va être leur collection? finalement, les objets vont arriver. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va construire un musée sur le modèle du musée occidental? Est-ce que tout ça, finalement, comment ça va être fait? Il est tout à fait possible qu'une grande partie des restitutions ne remplisse pas l'objectif qu'on aurait pu souhaiter, qui était de rendre à des peuples ce dont ces peuples ont été privés pendant des siècles, et qu'ils permettent, par exemple, de nouvelles sources de créativité, d'invention. Et peut-être parce que, est-ce que c'est les musées sur le modèle occidental qui doivent les recevoir? Enfin, toutes ces questions sont mises de côté comme si c'était évident.
Saskia Cousin-Couton, vous avez peut-être reconnu, je crois que vous m'avez demandé, oui, la voix de la théoricienne féministe décoloniale, Françoise Vergès. Elle a publié en France récemment « Programme de désordre absolu, décoloniser le musée », en référence d'ailleurs à Frantz Fanon dont j'ai parlé au tout début de l'émission. Et décoloniser le musée, c'est alors exposer peut-être autrement, associer d'autres publics, raconter l'histoire différemment, mais c'est aussi, évidemment, et Françoise Vergès en a parlé, restituer les objets pillés pendant la colonisation. Et la restitution, ça c'est une question sur laquelle vous travaillez, Saskia Cousin-Couton. Et vous rappelez d'ailleurs à ce sujet souvent que c'est loin d'être un phénomène récent. On en parle de plus en plus, mais surtout, les demandes de restitution d'objets africains remontent à bien longtemps.
Oui, absolument. Alors, on n'a pas forcément des traces écrites, mais on sait que, par exemple, la première demande de restitution écrite dont on a trace, c'est le Nigeria, en fait, le petit-fils de l'Oba, donc le roi de Benin City, qui a été victime du sac de Benin City, qui fait une demande en 1930. Et d'ailleurs, il y a le petit-fils d'un des soldats qui lui restituera à titre privé. Mais donc, en fait, depuis et dans les années 60, ça a pris, il y a eu beaucoup de demandes dans les années 60. Bénédicte Savoie a travaillé sur cette question-là, notamment côté allemand. Il y a depuis toujours eu des demandes de restitution des biens spoliés, plutôt faites par les communautés. Et les États africains s'en sont saisis plutôt tardivement. Alors, le premier à faire une demande officielle, c'est en 73, je crois, c'est Mobutu. Mais en fait, les États, par exemple le Bénin, s'en saisit en 2016, alors que la première demande officielle, c'est par le descendant du roi Bérenzin, c'est 2005. Donc en fait, il y a toujours une demande au type de familles spoliées qui font des demandes. Et puis les États africains s'en saisissent, la CEDEAO également, puisqu'il y a un enjeu, on va dire, de souveraineté, mais aussi il y a un enjeu touristique, donc un enjeu économique avec l'idée que donc on n'est plus dans la rematriation, la rematriation, c'est l'idée du retour aux communautés spoliées, et la restitution au sens de rapatriement, c'est plutôt aux États. Et il se trouve que la France refuse de rendre aux communautés, et donc actuellement les demandes de restitution sont faites d'État à État. Dans d'autres cas, par exemple en Allemagne, la restitution, c'est un transfert de propriété. Et ce transfert de propriété ne veut pas dire forcément transfert physique. Et donc, il faut arrêter de penser que les musées vont être vidés. L'Allemagne, donc c'est Nanette Snoop qui s'est occupée de ça, qui est à l'origine de tout ce processus, a restitué au Nigeria des objets. L'Allemagne a choisi, le Nigeria a choisi celle qu'elle voulait ramener au Nigeria et a laissé les autres. Ce qui fait que ces objets deviennent ambassadeurs. Mais ils sont ambassadeurs au sens où ils appartiennent désormais au Nigeria. Et pour une raison qui m'échappe, cette possibilité-là n'est absolument pas creusée en France.
Et puis, il y a autre chose qu'a dit Françoise Vergès, c'est aussi sur le modèle des musées qui vont accueillir ces objets rapatriés, restitués. Parce que ça se pose, effectivement. Pourquoi est-ce qu'on devrait faire un modèle, un musée occidental ? Pas obligé, finalement.
Alors, effectivement, c'est pas obligé. C'est vraiment un enjeu de débat, notamment au Bénin. Il y a un enjeu. Le problème, par exemple, c'est que la restitution française était conditionnée. C'est-à-dire que, et la loi qui est en discussion conditionne, et c'est un vrai problème, à une exposition patrimoniale. C'est-à-dire, on vous restitue vos choses à condition que vous les exposiez d'une certaine manière. Le musée d'Abomey, historiquement, les familles, en fait, pouvaient prendre les objets pour les cérémonies. Donc là, il y a un enjeu, en fait, de ne pas renoncer, en fait, au fait que ces objets puissent rentrer et sortir, interagir avec leur communauté, ce qui est le cas de plein de musées autochtones, notamment en Amérique du Nord. Mais le modèle français, qui vise à éradiquer toute sacralité, toute relation, toute vivacité, toute vitalité, ne prend pas en compte cette question-là. Donc c'est un enjeu dans les pays du retour de pouvoir penser des musées qui ne soient pas colonisés par la pensée et par la manière de faire musée française.
C'est ça aussi, décoloniser le musée.
Absolument.
Alors, puisque vous parlez du Bénin, Saskia Cousin-Couthon, on pense bien sûr en matière de restitution au retour des trésors royaux d'Abomey en 2021. 26 pièces restituées par la France, il y en avait évidemment beaucoup plus, qui ont été exposées un temps au Palais de la Présidence à Cotonou. Je ne sais pas si vous avez vu l'exposition.
Oui, absolument. C'était une très belle exposition. Et ce qui était peut-être encore le plus fascinant, c'est qu'il y avait une foule incroyable.
C'est ça, 5000 visiteurs par jour.
Voilà, 200 000 visiteurs. C'était ouvert en deux parties, près de 200 000 visiteurs. Des files ininterrompues de scolaires. Et je voudrais ici saluer le travail incroyable de Sandrine Dossou, qui a géré, en fait, qui était responsable de la médiation. Puisque l'idée, c'était aussi d'accueillir les visiteurs et aussi de raconter, en fait, de permettre de ces retrouvailles. Et donc, c'était aussi une visite guidée avec des médiateurs formés dans toutes les langues, enfin, qui parlaient toutes les langues du Bénin, enfin pas toutes, mais il y en a 34, mais un certain nombre de langues. Et donc c'était un moment de retrouvailles extrêmement, extrêmement émouvant.
C'est ça, c'est aussi ce que ça dit, c'est que finalement, ce retour des objets, c'est surtout une affaire de réappropriation de sa propre histoire, une réappropriation populaire, culturelle.
Absolument, on a fait des enquêtes quantitatives à l'université d'Abomey-Calavi auprès des jeunes étudiants. Et un petit peu au nord du Bénin également. Et ce qui ressortait, c'était plutôt une fierté. Et puis, deuxième chose, le fait qu'on nous aurait menti. C'est-à-dire l'idée qu'on ne nous avait pas raconté qu'on était aussi créatif, qu'on avait cette histoire-là.
Ça, c'est la décolonisation.
Et ça, c'est très important. C'est en ça que les musées sont importants, c'est-à-dire qu'ils participent à donner aux étudiants béninois, mais à la population générale, mais également sénégalaise et tous les pays du retour, Nigeria aussi évidemment, l'idée que on peut être fier de notre histoire et on va s'appuyer là-dessus pour créer, pour raconter une autre histoire, pour pouvoir sortir en fait de l'histoire telle qu'elle nous a été inculquée souvent à l'école, parce que souvent les ouvrages d'éducation sont issus, en fait, de l'histoire coloniale.
C'est ça, finalement, décoloniser. C'est aller au bout de la décolonisation. Mmh. C'est finalement revendiquer sa culture et son histoire et peut-être, qui sait, accueillir après des touristes.
Absolument. Alors, au Bénin, la politique touristique préexiste à la restitution. La restitution étant venue par l'État du Bénin comme un des éléments de la production d'une économie touristique.
Il y a beaucoup de musées en cours, d'ailleurs.
Voilà, il y a 4 musées en cours qui devraient ouvrir d'ici 18 mois et qui s'adressent, on va dire, à ce qu'on appelle la diaspora ancienne, donc africaine-américaine, de la Caraïbe, et puis la diaspora. Et évidemment, le public béninois. Donc, c'est d'abord construire, en fait, un récit de souveraineté et pouvoir accueillir ces publics internationaux, selon des normes internationales, mais pour avoir un récit, on va dire, contre-hégémonique sur les trésors qui sont venus. Donc ça, c'est le musée en construction à Abomey. Mais par exemple, il y a un musée international du vaudou qui va ouvrir à Port-Nouveau et qui est construit, qui parle aussi du vaudou haïtien, du condomblé, de la santeria à Cuba, et qui construit un discours atlantique sur cette religion qui a souvent été diabolisée par les monothéismes.
Merci beaucoup, Saskia Cousin.
Merci.
Ça donne envie de voyager au Bénin, justement.
Merci.
Je rappelle le titre de vos ouvrages, donc Sociologie du tourisme, d'une part, et plus récemment, Ogoun et les matrimoines, paru aux presses universitaires de Nanterre. Merci aussi à Sourour Nadjaï pour sa participation, son compte Décolonial Voyage. Et je le rappelle, sur Instagram et un podcast doit prochainement voir le jour. Merci à Aurèle Charlieu pour cet enregistrement. Merci à la Sonothèque de RFI, à Lina pour leurs archives, et à Laura Larry pour la réalisation de cette émission. Céline Develay, Laura Larry, on vous salue, auditeurs si loin, si proche. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres voyages sonores et quand vous le voulez, en podcast sur notre appli RFI Pure Radio.